even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Comment surmonter sa peur à vélo? C'est la question qui m'a été posée cette semaine. Alors je vais vous expliquer mon parcours. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kilomètre 350. Comment débuter le cyclisme à 46 ans? Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end? Telle est l'aventure, je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier. Il y a encore quelques années, je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kilos pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours, mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport. Mais ça va le devenir. Et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier Gravelman 350. Et c'est ce que je vais vous raconter. Oui, j'ai modifié un petit peu l'intro aujourd'hui, j'ai rajouté Gravelman 350, parce que vous savez que maintenant que j'ai fait mon Gravelman Auvergne, bah, l'autre objectif, c'est le Gravelman Paris-Deauville, le 350. Voilà, c'est le vrai gros objectif. Alors, cette semaine, je ne vais pas vous faire de fil rouge, parce que en fait, je me suis pas vraiment entraîné cette semaine. J'ai décidé de me reposer un peu après le périple de la semaine dernière. J'ai bien roulé 450 km sur 5 jours, j'ai rajouté un peu de vélo en mode déplacement, soit une quarantaine de kilomètres. Mais c'est vrai que le gros de mes 20 heures de sel de la semaine dernière a été fait avec le périple dont j'ai fait le bilan dans l'épisode de la semaine dernière, c'est-à-dire pour aller voir Hermano sur son défi Agrippa de traverser de la France. Donc je vous rappelle, c'était aller en Bourgogne en vélo, faire un peu de course et de vélo avec lui, et puis ensuite rentrer depuis le Beaujolais en vélo. Voilà, donc ça sur 3 jours. Alors je dois le dire, derrière j'ai eu une bonne fatigue, vraiment une bonne fatigue qui a peut-être été amplifiée par la chaleur sur la route, la soif. J'étais arrivé très sec le mercredi, puis en plus j'ai pris des bons coups de soleil, un bon coup de chaud je pense. Un sommeil moyen tant là-bas que pendant que sur la fin de la semaine. Donc en fait j'étais un peu cuit. Franchement j'étais un peu cuit, même sur la course à pied, je voyais j'ai pas beaucoup d'énergie, donc je me suis accordé une semaine sportive, cool, avant de reprendre une prépa plus sérieuse pour les prochains objectifs. Mais là, vraiment, cette semaine, j'ai dit, c'est une semaine sportive cool, qui me permet aussi, en plus, d'enregistrer mes projets, comme ma formation SAM sur, justement, l'équilibre énergie, où, justement, je parle de l'importance du sommeil. Et puis aussi d'enregistrer des épisodes de mes différents podcasts. Et notamment, alors là, pour vous qui faites du vélo, j'ai enregistré un épisode de mon podcast Sport et Nutrition, qui sort une fois sur deux le vendredi, avec Alice Michel sur l'alimentation en bikepacking. Et ça, c'est une question que vous m'avez posée, puis c'est plein de questions que je me suis posées, moi aussi. Et donc, on a décidé de le faire sur Sport et Nutrition, parce qu'on a vraiment centré l'épisode non pas sur le bikepacking global, mais vraiment sur qu'est-ce qu'on met dans ses sacoches, quelles sont les stratégies, qu'est-ce qu'on mange si on s'arrête dans un supermarché, dans une boulangerie ou je ne sais pas quoi. Donc l'épisode sort ce vendredi, si vous écoutez l'épisode, ça sort ce 9 juin. Elle donne beaucoup d'astuces, elle a l'habitude de faire des trips, elle en parle un petit peu à la fin. Donc elle donne beaucoup d'astuces, elle est diététicienne, nutritionniste et tout, sportive et tout. Donc vraiment, vous allez voir, il y a beaucoup d'informations, il y a plein de choses à retenir avec des stratégies, que ce soit si on dort à l'hôtel, si on dort en Airbnb ou si on dort sous la tente. Voilà, ceci étant dit, je vous mets un petit lien dans les notes de l'épisode et on va pouvoir attaquer maintenant au cœur du sujet, vraiment l'important du sujet du jour, c'est-à-dire cette question qui m'a été posée par Isabelle. Comment surmonter la peur de la chute? Voilà, c'était, j'ai demandé sur Instagram, mon Instagram, Bertrand Soulier, savoir si vous avez des questions. Et donc, j'ai eu cette question-là. Parmi les questions, il y avait comment surmonter la peur de la chute. Alors, la peur de la chute et la peur globale en vélo, je pense que c'est un problème qui touche beaucoup de monde. J'en ai déjà parlé parce que effectivement moi-même, j'ai eu cette peur et j'ai encore cette peur par moment, je dois le dire. Les premières sorties, et notamment la première sortie, si vous vous rappelez le petit intro du tout premier épisode, au 30 janvier, quoi, dans ces zones-là, je me sentais vraiment pas à l'aise sur mon vélo. En fait, ça me changeait déjà, ça faisait longtemps que j'ai pas vraiment roulé en vélo par rapport à mon fixie et tout, et puis ça me changeait vraiment aussi la taille du vélo, c'était pas les mêmes roues, des roues plus grandes, le guidon pas pareil, pas un guidon plat mais avec un cintre, etc. Enfin tout ça, quand je suis parti du Décathlon avec mon vélo le premier jour, franchement je me suis dit mais heureusement qu'en plus j'ai pas les pédales automatiques à gérer, parce que là franchement je serais à terre et j'en menais pas large. Les premiers kilomètres, franchement je me suis dit ouais mais ça va être galère cette histoire là et puis petit à petit c'est devenu plus facile. Mais au départ, les premières sorties, je me sentais vraiment pas très à l'aise sur ce nouveau vélo. Et puis ensuite je me suis posé des questions sur l'adoption des pédales automatiques, et vous savez que j'ai fait des épisodes sur est-ce que je vais tomber, comment le faire, etc. Donc là, il y a eu vraiment des sujets. J'en ai parlé aussi dans Kilomètre 42, d'ailleurs, dans les minutes perf. Il y a eu aussi la question des descentes, les descentes techniques, les passages techniques, et puis par moment des petits raidillons, vous savez, qui vous stoppent là, les trucs, ça monte tout d'un coup là, tout raide, genre un passage de pont par exemple, il y a un pont qui monte tout raide, dans lequel on roule de moins en moins vite, et puis on a l'impression qu'on va finir par reculer, et puis des montées où on a l'impression qu'on n'avance plus, et qu'au bout d'un moment, ben, le vélo s'avance plus du tout, et que à ces moments-là, ben, l'équilibre, parce que l'équilibre en vélo, c'est quand même lié à la vitesse, hein. Si on va tout doucement, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir l'équilibre. Et en plus, bon, j'ai rajouté des choses comme les sacoches, sacoche à l'avant, sacoche de cadre, et puis maintenant une sacoche sous la selle aussi, à l'arrière de la selle, hein, qui va arriver pour porter justement sur des trucs en bikepacking. Donc, dans la globalité, en fait, il y a plusieurs fois, en fait, où j'ai eu peur de tomber, où je me suis posé des questions sur la chute. Je vais en parler aussi, hein, d'ailleurs, sur j'ai eu peur de tomber, et j'anticipais aussi beaucoup le fait que j'allais tomber. Mais en fait, cette peur a beaucoup diminué. Et puis, je dois le dire, je ne suis jamais tombé. Donc, bon, et je dis pas que je tomberai jamais, parce que ça, vous savez, le mot jamais, faut jamais le dire. Mais c'est vrai que je ne suis jamais tombé pour le moment, donc je touche tout le bois que j'ai autour de moi, y compris ma tête, etc. Et je dois le dire, c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai failli tomber. J'ai bien failli oublier de défaire le pied de la pédale auto, par exemple, à un stop. J'ai pas vu le stop. Voilà, et puis quand le stop est arrivé, sur le coup, bah, j'ai d'abord pensé à freiner et j'ai oublié de défaire le pied, et j'ai défait vraiment au dernier moment. Donc j'ai un petit arrêt d'urgence, idem un feu rouge aussi, puis une ou deux fois aussi il y a des moments où je me rends compte au dernier moment, je me dis ouah là ce truc là, je sais pas si ça va passer ou pas, donc je freine un peu brutalement en me disant ça me semble un peu, c'est une ornière, un espèce de passage avec des cailloux, etc., ou du sable et tout, des choses comme ça. Je me dis ouah là ça va pas passer, donc je freine un coup, et puis il faut que je défasse les pieds et tout. Il y a eu un moment aussi un petit peu, ce petit raidillon là, notamment pas très loin de Vichy là, où un petit raidillon, je voulais passer dans un parc, et c'est super raide, et là le vélo s'est arrêté parce que ça montait plus, et j'avais les deux pieds vissé sur les pédales, et donc là je me suis par laquelle je commence à par défaire, je me suis rattrapé de justesse, et puis je me suis même retenu à un piqué lors d'un passage dans une flaque de boue le long d'un champ, et là en fait le piqué, j'ai attrapé le piqué en bois, et heureusement que j'ai attrapé le piqué en bois et pas la barrière, parce que la barrière en fait il y avait du fil barbelé dessus, donc j'ai échappé à la chute, j'ai aussi échappé au fil barbelé, parce que si j'étais tombé, j'aurais pu tomber sur le fil barbelé ou de l'autre côté là, dans un espèce de petit ravin avec de l'eau, etc., au fond. Bref, donc je suis pas tombé, le vélo a stoppé net dans ce coup-là et tout, je me suis bien rattrapé, et globalement j'ai pas eu de chute, et puis en fait je me rends compte aussi que surtout j'ose désormais prendre plus de vitesse, y compris dans les descentes. Bon, il reste toujours le cas des descentes les plus raides, les plus techniques, celles où il y a beaucoup de caillasses, et puis celles qui descendent vite un petit peu, là je me rends compte que je suis pas encore très à l'aise, hein, j'en ai parlé dans le bilan du Gravelman, même si je pense que depuis le Gravelman et notamment mon aventure en vélo pour aller voir Hermano, et je vais en reparler après justement de l'importance de ce type de sortie, mais aussi de multiplier les sorties, apporte de l'expérience, vraiment. Mais c'est vrai que les descentes les plus raides, pour l'instant, je suis pas encore à 100% à l'aise, vraiment, on peut pas dire. Et puis, est-ce qu'on peut être à 100% à l'aise sur des descentes très raides, avec des gros virages, avec des besoins de gros freinages, etc.? Ben, avant que je puisse l'être, et c'est ce que je dirai à la fin, c'est qu'il va falloir que je m'entraîne. Je me rends compte aussi que je passe beaucoup plus vite sur certains passages plus techniques. Je le vois en fait parce que il y a des passages où je passe depuis 2-3 mois systématiquement, une fois de temps en temps dans la semaine, etc. Où franchement, mon Strava, il me dit que je bats des records systématiquement. Alors on peut penser que c'est que je pédale plus fort, ou aussi que je passe plus vite à des endroits où avant je mettais un gros coup de frein. Je vois hier, il y a un chemin que j'ai pris où j'ai pas mis du tout de coup de frein, alors qu'avant je l'aurais pris vraiment très doucement. Au début, je prenais tout doucement. Et maintenant, en fait, des fois, je regarde le compteur, je me dis, voilà, mais attends, tu passes à 30 ici, alors qu'avant, à une époque, je me rappelle que le compteur, je passais beaucoup moins vite. Et mon Strava me le confirme et tout. Donc, ça veut dire qu'il y a des endroits où je passe beaucoup plus vite, sur des passages où il y a de la caillasse, il y a des ornières, il y a des trucs plus techniques, etc. Mais je vais y passer beaucoup plus vite aussi. Donc, ça veut dire que quelque part, quand même, je suis plus confiant et plus à l'aise dans mes capacités et plus à l'aise sur mon vélo. Je saute aussi plus les petites bosses et tout quand je les vois. Je ralentis moins à l'approche de certaines ornières. Je reste quand même très très méfiant des flaques de boue. En fait, pourquoi je suis méfiant? Parce que comme on voit pas le fond, la peur que finalement la flaque soit plus profonde, comme s'il y avait un gros trou, vous savez, un gros trou qui allait m'engloutir. Mais en fait, c'est là la peur, elle se situe en fait. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est de dire que finalement, d'où vient la peur? Quelle peut être la peur et qu'est-ce qu'on peut avoir comme peur? Et je vais en parler après. Mais d'abord, pourquoi cette évolution? Bah déjà, pourquoi je suis plus à l'aise, pourquoi je descends plus vite, pourquoi je suis, je vais plus vite sur mon vélo, pourquoi sur les lignes droites, même des lignes droites où avant je dis ouais ben ça va, là je suis à telle vitesse maintenant, et maintenant je vais essayer d'aller plus vite, etc. Et ben déjà j'ai pris de l'expérience en roulant, ça c'est sûr. Je vois même hier sur des descentes que je prenais d'habitude au départ tout doucement, etc. Et là je me suis engagé dedans, hop j'ai basculé même les épaules et tout pour bah, et dedans et tout un peu plus vite et tout. Et pourquoi je suis capable de le faire? Parce que j'ai pris de l'expérience, parce que je sais que je suis capable de le faire, parce que je sais aussi que je suis capable de m'arrêter. Et comment j'ai pris cette expérience? Et ben c'est là où je vais revenir sur mes heures de sel. C'est vraiment au cœur de mon intention qu'au départ de dire il me faut des heures de sel pour devenir plus pour devenir un cycliste, parce que moi je partais de pas grand chose hein. J'ai fait un de mes premiers épisodes, je vous ai expliqué que c'était pas une grande histoire d'amour moi et le vélo, que ça faisait longtemps que j'ai pas roulé, que en plus mon dernier vélo, ça a été un fixie, donc pas les mêmes dimensions, pas les mêmes rapports au vélo, pas le même déjà il pas les mêmes guidons, mais pas les vitesses aussi non plus, plus rien, enfin il y avait rien, il y a pas de vitesse et tout. Je me rappelle le premier jour où j'ai pris ce vélo, ce nouveau vélo, même changer les vitesses avec les changements de vitesse qui n'étaient pas celles comme mon VTT de ma jeunesse. Je me disais mais attends, comment je change de vitesse là-dessus, comment je passe ma vitesse, etc. Donc tout ça en fait je l'ai appris en cumulant les heures de sel, et c'est vraiment au cœur de mon intention, parce que je l'avais dit que le et dans le fil rouge c'est ce que je fais, c'est que vraiment je me concentre sur mes heures de sel, de voir plus que les kilomètres, vraiment d'avoir des heures de sel, et de au départ de dire bah je vais rouler 3-4 heures par semaine. Je vous avais dit hein, des fois j'arrivais pas à rouler 3-4 heures par semaine, et ben en fait ça, vraiment, c'est quelque chose sur lequel je me suis concentré pour augmenter mes heures de sel, avec le but, l'objectif pour moi, c'est d'arriver à faire sur 2-3 jours les heures prévues sur le Gravelman. Alors, j'ai une question qui se pose de savoir combien de temps un Paris-Deauville en Gravelman à mon niveau, ça va faire, quel est le niveau, quel temps je vais mettre, etc. Mais je me dis, en plus, il peut y avoir la nuit, si je le découpais en deux en disant, par exemple, je fais 200 km le premier jour, 150 km le lendemain, même en faisant à une certaine moyenne, si j'ai, on va dire, 16, 18, 19, 20 heures de sel sur quelques jours, je pense que je suis globalement à peu près prêt. Et ben ça tombe bien, c'est ce que j'avais la semaine dernière. Bon, je suis un peu en avance quand même, hein. 3 mois avant, je suis un petit peu en avance, beaucoup en avance sur mes projections. Et notamment parce que certains m'avaient fait des retours en disant attention, il faut penser à bien rouler, il faut que tu fasses plus de sorties longues, faut que tu roules et tout. Et quand je demande ben combien de temps il faudrait que je roule, finalement je suis pas très loin en fait hein, des temps de roulage. Moi j'estime que surtout ce qui manque c'est des sorties longues, mais vraiment de vous voyez mon objectif grand fond d'eau qui était mon premier objectif de départ, j'ai attendu le Gravelman Auvergne pour arriver à le faire. La semaine dernière, j'en ai fait 2 dans la semaine, hein, donc c'est plutôt un gros progrès, hein, c'est-à-dire que finalement en 15 jours, j'ai fait 3 sorties de plus de 100 km. Bon, mais ça, c'est d'arriver à en faire régulièrement, tous les week-ends, arriver à faire ça pour vraiment me projeter ensuite sur avoir de la confiance hein, sur le Gravelman, sur le Paris-Deauville. Mais en fait, quand on regarde un petit peu, depuis fin janvier, j'ai roulé 116 heures et 2153 km. Alors que j'ai commencé par rouler 3 ou 4 heures par semaine au départ, hein, c'était le volume que j'avais, c'était ça. Et donc, je termine finalement sur les dernières semaines avec 11 heures en moyenne de temps de où j'ai roulé, avec des semaines où j'ai roulé. Alors, avant le Gravelman Auvergne, on était dans des temps autour de 8 heures, 9 heures, des choses comme ça. Après, bon, il y a eu une petite pause. Après, il y a eu ma petite expérience, là, mon petit voyage de la semaine dernière, où là, bien sûr, j'en ai cumulé beaucoup plus, hein, des heures où c'était plus près de 20 heures. Oui, autour de ça, je pense, 20 heures, j'ai dû faire. Grosso modo, sur les 2 jours, sur les retours, avec la pause au milieu où j'avais roulé quand même l'après-midi, hein, donc j'ai plus de 20 heures sur 2-3 jours. Donc, mes moyennes ont fortement augmenté, mes petites fesses aussi sont rappelées, parce que quand je les touche, je me rends compte que j'avais eu il y a eu une question la semaine dernière sur l'irritation. Il m'a dit, ouais, ça fait de mal, un peu irrité, etc. Mais oui, en fait, je constate que j'ai bien été irrité. Donc là, j'ai un petit truc à faire sur ma selle. Sur, est-ce que c'est la selle? Est-ce que c'est le cuissard? Est-ce que c'est un peu l'ensemble des choses? Est-ce que c'est ma position? Est-ce que... Toutes ces trucs-là, c'est comme mon doigt, hein, ma main revient, j'arrive à repasser les vitesses, je suis moins engourdi dans les mains, etc. Donc ça revient, mais ça veut dire que c'est quand même des axes où il faut vraiment que je travaille là-dessus. Mais pourquoi j'ai insisté sur ces heures de sel? Parce que je crois fort à l'apport de l'expérience et de la répétition de l'effort. En fait, ça, moi je viens de la course à pied et j'étais débutant en course à pied. C'est-à-dire que les débuts de KM42, de mon podcast KM42 il y a 5 ans, il y a 5 ans ou il y a 4 ans, oui, dans ces zones-là, là. Oui, il y a 5 ans, c'était aussi cette notion de dire bah, je commence à pas grand-chose et comment je vais devenir un coureur pour être capable de courir un marathon. Et là, je suis dans la même démarche, c'est-à-dire que comment je passe de zéro à rouler la distance que je veux faire. Et comme je le fais en course, en fait, moi, je préfère multiplier les petites sorties dans la semaine que seulement une grosse sortie le week-end. C'est vraiment mon truc, en fait, c'est de dire, bon, en course, je cours tous les jours. En vélo, je roule pas tous les jours, bien qu'il y ait des semaines entre des jours où je vais rouler en entraînement, puis des jours où je vais faire du vélo pour déplacement. Et en fait, quand je fais du déplacement, c'est autour de 10, 20 kilomètres, hein, des choses comme ça. Bon, ben finalement, j'en viens à rouler beaucoup plus souvent, j'en viens à rouler très régulièrement. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que ça permet en fait un apprentissage qui est vraiment important. C'est-à-dire que le fait déjà de rouler régulièrement avec des petites sorties, c'est déjà moins fatigant. Bon, il y a moins de fatigue. On est moins fatigué après avoir fait une sortie d'une heure que d'avoir fait une sortie de 10 heures, ça c'est sûr. Et donc, si sur la semaine, je fais 5 sorties par exemple d'une heure 30, ce qui va faire quelque chose comme 8 heures, entre 7 et 8 heures on va dire, avec les arrondis, les pauses, etc. Et ben je pense que ces 5 sorties sont moins fatigantes que de faire une sortie de 8 heures en un seul bloc le samedi ou le dimanche. Voilà, ça c'est sûr. Ce qui n'empêche que quand même, il faut quand même que je fasse mes sorties longues du samedi, dimanche, hein. Ça c'est sûr, pour préparer, pour m'habituer à la distance, pour tester des solutions d'alimentation et tout ça. Mais outre ce gestion de la fatigue, gestion du temps aussi, parce que des fois, placer une sortie de 8 heures un week-end, par exemple, il y a des week-ends où je peux tout simplement pas le faire et où en semaine, je pourrais pas le faire non plus. Donc, il y a des semaines où je peux placer facilement une heure ou deux heures de sortie, mais je peux pas placer une sortie longue de 7 à 8 heures. Ben, outre ce gestion temps et fatigue, il y a, je le redis, l'apprentissage neurologique. Et là, c'est vraiment important parce que c'est les neurosciences qui nous rappellent en fait comment nous apprenons les choses. Et pour moi, je suis sur la répétition des sorties permet un apprentissage neurologique vraiment qui est beaucoup plus rapide. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'on apprend plus rapidement par l'action et finalement par le test répété, par la répétition de nos actions. Et en fait, le test répété de nos connaissances et de nos aptitudes, c'est-à-dire que on apprend un truc un jour, on peut l'apprendre en pédalant hein, sur le vélo, tiens, je vais faire un nouveau truc, je l'ai appris. Si je le refais pas pendant plusieurs jours, et ben quand je vais essayer de le refaire, ça sera compliqué parce que j'aurais pas mémorisé, mon cerveau l'aura pas mémorisé, notamment il y a une faculté de mémorisation pendant le sommeil hein, de nos gestes, mais aussi si vous rêvez de vélo, dites-vous que la répétition que rêver de vélo par exemple, c'est une sorte de répétition. Mais la visualisation aussi hein, est une forme, hein. On pourrait dire aussi on pourrait faire de la visualisation que moi j'ai pas utilisé mais qu'en préparation mentale on utilise parce que je suis certifié préparation mentale. Et la visualisation par exemple, il y a un truc qui est vrai, c'est que vous, si vous visualisez une action pour votre cerveau, c'est comme s'il la faisait. Donc, si on se visualise, par exemple, face à quelque chose qui nous fait peur, par exemple une descente, et on se visualise en train d'arriver à l'apprendre, de gérer sa vitesse, etc., de dire il faut que j'appuie comme ça, que je fasse telle ou telle position, et ben finalement, c'est une sorte d'entraînement. Bon, les rêves aussi, on pense que c'est une sorte d'entraînement, mais ce qui est sûr, c'est que la répétition rapide, hein, régulière, mais vraiment rapide, de dire d'enchaîner un peu tous les jours ou tous les 2-3 jours des exercices que l'on peut faire, des aptitudes que l'on peut développer, va permettre en fait de les intégrer beaucoup plus rapidement. Et en plus, l'avantage de faire plein de sorties comme ça, c'est que ça permet de se confronter à plus de terrain, plus régulièrement, et donc de dire bah tiens, un jour je vais faire de la route, un jour je vais faire des chemins, un jour je vais faire une sortie courte, mais sur ce chemin-là, bon, j'ai pas de quoi faire une sortie très longue, mais ça me permet de tester différents chemins. Donc à chaque fois que je teste des nouveaux chemins, des nouveaux terrains, des nouveaux types de montées, de descentes, etc., j'apprends des nouveaux trucs, et en le faisant très régulièrement, et ben notre cerveau solidifie nos aptitudes beaucoup plus rapidement. Et en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment, et puis moi je l'ai vu avec un kiné aussi, on en avait parlé sur les gestuels, où il me faisait répéter certains gestes le matin, le soir, un certain nombre de fois, où il m'avait bien expliqué, il m'a dit oui, mais sur le neuroscience, on sait que le fait de le répéter plusieurs fois dans la journée est vraiment intéressant. Et il y a des exercices notamment hein, que donnent les kinés. On en parlait l'autre jour sur un salon du running, et j'en parlais avec quelqu'un qui, justement, des exercices et tout. Son kiné lui avait demandé de faire des exercices trois fois dans la journée, en fait, et pas une fois dans la journée, mais trois fois dans la journée. Pourquoi? Justement pour répéter, pour mémoriser beaucoup plus rapidement ces connaissances, pour que la gestuelle et tout soit intégrée beaucoup plus rapidement. Et donc là, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'on solidifie nos aptitudes plus rapidement si on a plus de sorties, si on a l'habitude aussi de tester différents terrains, de faire des nouvelles choses et qu'on le fait régulièrement. On développe aussi ainsi plus rapidement l'équilibre, la proprioception. Et la proprioception, si vous voyez pas trop ce que c'est, on va dire que c'est la capacité d'équilibrage du corps par tout un tas de les muscles, les sensations, les nerfs, tout un tas d'équilibres. Alors, on peut en faire en vélo, on peut en faire à course à pied, on peut en faire même quand on marche, etc. On a tout un système d'équilibrage, en fait, etc. Ce qui explique d'ailleurs que si vous avez les yeux fermés, vous êtes capable de vous équilibrer sans aucun problème avec les yeux fermés. Par exemple, vous tenez debout, les yeux fermés, vous n'allez pas tomber du premier coup. Pour autant, vos muscles vont trouver des systèmes d'équilibrage. Ces systèmes d'équilibrage viennent des nerfs, viennent des muscles, de la musculation, viennent de mémorisation du cerveau, viennent de l'oreille interne, viennent de plein de choses. Mais je pense que sur le vélo, c'est pareil. Il y a plein d'aptitudes que l'on développe qui viennent de ces équilibres-là, qui se développent sans qu'on y pense. Hein, ça se mémorise comme ça. Mais c'est l'habitude, l'entraînement, la répétition rapide. Et quand je dis rapide, c'est régulière et souvent et à intervalles assez courts qui permet d'aller plus vite. En fait, on sait que des gestes, il faudrait les répéter au moins 3 fois pour arriver à les mémoriser. Alors vous savez, il y a la logique, on dit les fameuses habitudes, il faudrait 21 jours pour les... Bon, ça c'est un peu... Ça dépend des habitudes, parce qu'il y a des habitudes, vous pouvez les prendre en quelques jours, il y a des habitudes, au bout de 90 jours, vous n'avez toujours pas intégré, même si vous les faites tous les jours. Mais en fait, il y a une forme d'automatisation de nos gestes, de nos connaissances, qui passe par la répétition et l'entraînement, et on sait que quelque chose que l'on apprend, par exemple un geste que l'on apprend, il faudrait le répéter au moins 3 fois, mais de 3 jours d'affilée, même pour que ça serait plus efficace, pour arriver à l'intégrer. Et vous le voyez, quand vous apprenez un nouveau geste, quand vous apprenez, même dans le travail, quand vous apprenez quelque chose de nouveau, si vous le faites une fois, vous allez dire, oh là, il faut que je note mon truc et tout, et puis si vous le répétez pas, si vous le refaites pas pendant, par exemple, un mois, à chaque fois, faut ressortir les notes, faut dire, ah, comment j'ai fait ça et tout, faut ressortir ces notes, je me rappelle pas comment j'ai fait ça. Si vous le faisiez tous les jours pendant 3-4 jours, le 5e jour, vous êtes sûr que vous savez le faire sans regarder vos notes, vous arrivez à le faire très machinalement, mécaniquement, etc. Tout simplement parce que, la connaissance se solidifie par la répétition, par l'entraînement, par la manipulation. C'est encore plus vrai quand on est adulte, en fait. Chez les enfants, on peut dire ils arrivent à apprendre certaines choses, mais en fait, ils le font naturellement par le geste. Mais on oublie vraiment trop souvent, peut-être aussi c'est dû à nos études d'années supérieures où beaucoup on n'a pas des, quand on apprend des trucs pour le cerveau et pas pour les gestes et pas la gestuelle, qu'on n'a pas des métiers qui soient des métiers manuels où il y a pas de gestes. Et finalement, moi j'étais enseignant parce que j'avais des étudiants qui ne bougeaient pas et qui, à part écrire les choses, ne faisaient qu'écrire des trucs répétés et à essayer d'apprendre ce qu'on leur racontait. On oublie que la manipulation, que le vélo par exemple est une manipulation, c'est des gestes, c'est des muscles, etc. Et que ces mouvements-là vont s'intégrer petit à petit et qu'en fait il y a des connexions neurologiques, musculaires et tout qui vont se créer tout simplement parce que elles se créent, mais vraiment quand on dit qu'elles se créent, c'est-à-dire qu'il y a des relations qui se créent dans nos gestuels, qui se créent par la répétition, par l'entraînement, et donc ça c'est vraiment important. Et donc en multipliant les sorties, en multipliant les terrains rencontrés, les essais, et qu'est-ce qui se passe, on intègre de nouvelles aptitudes, et ces nouvelles aptitudes, elles sont rassurantes et sécurisantes. C'est comme ça qu'en fait on va dire, il y a des endroits où je passais, j'avais un peu peur à un moment donné, je me rends compte qu'à force de passer par là, déjà je diminue ma peur, et puis qu'en prenant d'autres terrains, les terrains qui me semblaient plus compliqués deviennent un peu plus simples en visualisation, comment je les appréhende en fait, pas visualisation, mais comment quand je suis devant, je vais les appréhender. Et là, je dois le dire, en fait, l'expérience Gravelman, par exemple, avec des chemins où je me suis dit, mais normalement, j'y passe pas les roues là, et puis c'était la trace, elle était là, et puis les autres passaient les roues, je me dis, écoute, il faut aussi y passer. Ça passe par là, comment je fais pour passer par là, m'a montré aussi que, finalement, il y a des endroits sur lesquels, moi, je me restreignais en me disant, ouais, mais non, ça, c'est pas un terrain à vélo, ou finalement, oui, c'est un terrain à vélo, avec certaines manières de l'appréhender, voilà. Et puis, je me rends compte après que, sur mon voyage, là, pour aller en Bourgogne, notamment, il y a eu un moment, il y a un passage, je me suis dit, non, mais là, je vais vais pas y passer. Et puis je me suis dit, si, mais sur le Gravelman, en fait, je suis passé sur des terrains qui étaient de ce type-là. Et donc là, je sais que je peux y passer. Donc c'est là où, en fait, où ce qu'on a fait, les nouveaux terrains, les aptitudes que l'on développe deviennent rassurantes et sécurisantes. Et puis, il faut le dire aussi, j'ai adopté certains réflexes de prudence. Déjà, bah, sur les terrains où je me sens pas vraiment à l'aise, une sorte d'intuition, faire confiance un peu à nos intuitions, notre sensation, bah, je ralentis. Je défais aussi un pied de la pédale. Quand je suis en pédale automatique, je défais un pied de la pédale. Je laisse le pied prêt à se poser là sur la pédale. Et même, alors ça dépend des fois, parce qu'il y a des endroits où vraiment ça va pas très vite, où je laisse pendouiller en fait un petit peu en étant sur une jambe seulement, prêt à être posé, à se poser si vraiment il y a un truc un peu et que la vitesse diminue. Hop, je suis prêt à poser le pied, à passer sur un endroit, etc. Notamment, alors, les flaques de boue douteuse, ça c'est sûr, les petits ruisseaux, les petits cours d'eau, les trucs comme ça aussi, je me méfie un petit peu, où là je suis prêt à poser le pied, et donc je préfère en fait défaire le pied comme ça, le laisser soit sur la pédale non clipsé, soit un petit peu à côté qui pendouille. Et puis c'est aussi le cas quand je vois un petit coup de cul à très raide, comme j'ai parlé, qui va m'arrêter net. J'ai eu le cas il y a 10 jours, donc je le vois très bien, où là je pensais pas qu'il m'arrêterait aussi net, et d'un coup je me suis retrouvé à presque partir en arrière avec les pieds sur les pédales, et donc là j'ai réussi à défaire, curieusement d'ailleurs, pas le pied que j'ai fait d'habitude mais plutôt l'autre pied. Allez savoir pourquoi, j'ai réussi quand même à le poser avant de me prendre le gadin. Bon, voilà. Donc maintenant, je sais aussi, quand je vois ces genres de raidillons, je me dis, attention, est-ce que ça peut passer? Est-ce que ça va pas me stopper net? Et où là, je me tiens prêt, en fait, à être capable de poser le pied pour éviter la chute. Et puis, il y a des terrains que je juge trop compliqués pour ce que je sais faire pour le moment. Je n'hésite pas à descendre du vélo, si je le sens pas. Et puis, c'était le cas, par exemple, des fois où j'aurais peut-être fait, avec la sacoche, par exemple, qui rajoute du poids sur l'avant du vélo, sur la manipulation du vélo, sur le guidon, etc. Ben, s'il y a un endroit où je me sens pas vraiment, et ben il y a un moment où je me dis, bah écoute, il y a pas de souci, tu peux descendre. De toute façon, je n'ai pas une pratique qui vise à aller systématiquement le plus vite possible pour gagner des courses. C'est pas parce que je vais descendre de mon vélo, je vais pas perdre la face, je vais pas perdre une médaille, je vais pas perdre une place, je vais pas perdre de l'argent, je vais pas perdre même pas du temps. Enfin, à la limite, ça veut dire quoi perdre du temps? Et c'est là que ça vient en fait nous questionner sur ce qu'on appellerait l'anxiété de la performance, qui est un problème réel de notre société, qui se pose de nous là comme une chape de plomb que l'on a depuis l'enfance. C'est-à-dire que d'être fort, d'être performant, d'être rapide. C'est une pression très forte de la société qui se pose sur nous et dont on faut se méfier, parce que moi, en tant que papa, des fois, je me rends compte que je pourrais la poser sur ma fille aussi, alors qu'elle n'a que 5 ans. Et se dire, attention, 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 quelles sont finalement ces pressions, et l'anxiété de la performance a été étudiée, etc. Quelles sont ces formes de pression qu'on a tellement intégrées en nous que finalement, on devient nous-mêmes l'acteur de notre propre pression que l'on se met sur nous-mêmes, et qui débouche sur des choses de dire, bah, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, j'en suis pas capable, etc. Alors là, je vous renvoie sur les anciens épisodes de Kilomètre 42, sur les premiers où je disais, je vais jamais courir mon marathon, j'en suis pas capable, je suis un coureur lent, je suis nul, j'arriverai jamais à le faire. Et où certains de mes invités, dont Hermano, me rassuraient en me disant, mais si, tu vas y arriver. Et aussi dans Kilomètre 350, j'avais dit, je me sens beaucoup plus en capacité de le faire, je sais que je vais arriver à faire mon Gravelman, et où j'allais aussi chercher en fait de la rassurance chez certaines invitées. Nathalie Bayon m'en avait donné, on en avait parlé aussi, Camille Pic aussi m'en avait donné, Gwenoline aussi m'avait donné de la rassurance, etc. par certains éléments. On peut parler aussi de Adeline, l'épisode avec Adeline, qui m'en a donné, qui m'a dit aussi, qui m'a envoyé des messages après en me disant ma préparation était bonne, etc. Donc tous ces éléments-là donnent de la rassurance, mais qui finalement vient un petit peu nous rassurer sur la pression qu'on va se mettre en fait. Hein. Et en course à pied, par exemple, il y en a un qui est très 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 connu, une pression qu'on se met, c'est il ne faut pas marcher. Je n'ai pas le droit de marcher quand je cours. Quand je cours, je n'ai pas le droit de marcher. Ah là là, qu'est-ce qu'on a entendu? Et puis alors même, je veux dire un truc, c'est, vous prenez, comment il s'appelle, Murasaki, là, dans sa biographie, son essai sur la course à pied, autobiographie d'un coureur de fond, là, d'un auteur coureur de fond, je ne sais pas comment il appelle exactement, se vante d'être qui aura sur sa tombe une épitaphe en disant le coureur qui n'a jamais marché. Ça, c'est une pression qui est juste énorme. Alors moi, je suis pour, en course à pied, en tout cas, l'alternance de course et de marche. Et puis quand on fait du trail, on sait qu'il y a des moments où on va marcher. Mais même sur des courses, sur mon semi-marathon, le dernier semi-marathon, je n'ai pas hésité à marcher 2-3 fois, notamment sur des ravitaillements, etc. Et là, c'est exactement la même chose en vélo. Hein. C'est-à-dire que je me dis, il y a un moment donné, ben, si je dois poser le pied, je pose le pied. Si je dois faire une pause, je fais une pause. Et en fait, c'est définir mon propre niveau de pression. Et ça, c'est vraiment important, je pense, hein, Isabelle, notamment pour par rapport à ta question. C'est de dire aussi que finalement, les peurs des fois de chuter viennent aussi de dire... ben, il faut absolument que je passe là en vélo, il faut absolument que je roule à telle vitesse, si on roule en groupe, il faut absolument que je suive les gens, etc. C'est des choses que j'ai vues en ski aussi, quand j'ai fait beaucoup de ski, j'étais moniteur de ski les week-ends et tout avec des gamins et des adultes, et je voyais, alors les gamins, ils suivent et tout, ils s'amusent beaucoup, mais les adultes, il y a plus cette peur qui est entrée en disant, ouais, mais là, je vais chuter, là, je vais pas ça, et puis les autres, ils vont m'attendre, donc il faut absolument que je suive les autres à leur vitesse, etc. Et où finalement, on se met une pression qui devient importante, et c'est pour ça qu'il devient important de définir son propre niveau de pression. Donc je dis, moi, en course à pied, c'était m'autoriser à marcher, à faire de l'alternance course-marche. En vélo, c'est m'autoriser à rouler moins vite si je le sens pas, à prendre mon temps, à descendre du vélo, même une grande descente, à me dire, bah tiens, là, je vais ralentir. Alors, bien sûr, il y a des trucs qui ont changé, parce que, par exemple, sur le retour de ma petite expérience bikepacking de la semaine dernière, mon petit voyage en vélo, bien entendu, il y a eu une descente où là j'ai dit, j'ai plutôt avancé en descente et plutôt aller le plus vite possible pour essayer de remonter ma moyenne horaire que je trouvais trop basse, hein, parce que je trouvais que finalement la première montée, les 350 ou 400 mètres de dénivelé de la première montée m'avait un petit peu... déjà ça a été long, c'était un petit peu ennuyant, ça a un petit peu séché et tout, et puis je trouvais que je disais je vais arriver tard par rapport à la chaleur, etc., alors qu'en fait j'avais largement le temps. Donc je m'étais remis à niveau de pression, donc dans la descente j'avais dit bah tiens, je vais descendre plus vite, avoir des courbes plus intéressantes, etc., qui venait aussi peut-être aussi parce que j'ai l'expérience sur le gravelman du col de la Croix Saint-Robert où la descente c'était pas très bien passée parce que j'avais la fatigue aussi, puis j'avais froid et tout, mais aussi parce que peut-être que finalement, cette expérience avec cette descente qui était plus raide me permet de relativiser en fait la pente sur des descentes qui sont plus faciles à gérer en fait. J'ai eu le cas aussi il y a pas longtemps sur une sortie que j'ai faite pas très loin de Vichy, où finalement il y a une descente qui était longue, qui descendait bien, etc., où je la prends plus vite que ce que j'aurais pris avant, tout simplement parce que je sais que je suis plus capable de m'arrêter, de contrôler mon vélo, d'avoir une meilleure gestion des freins, etc. et tout. Donc tout ça, en fait, c'est un cumul de plein d'ensemble. Mais cette peur restait quand même présente. Ça veut pas dire qu'elle, déjà, elle restera toujours présente, parce qu'il faut se rappeler que la peur, c'est quand même un phénomène de protection. Si nous sommes les humains que nous sommes maintenant, c'est parce qu'en fait, nous avons eu peur. Et qu'en fait, c'est l'humain pessimiste qui l'a emporté. L'humain optimiste qui se dit, oh, tout va bien se passer, je saute dans le vide, et puis de toute façon, en bas, j'arriverai bien à atterrir. Lui, il n'a pas atterri. Enfin, il a atterri, mais il a atterri comme une crêpe. Celui qui a survécu, c'est l'humain pessimiste en se disant, il faut peut-être que je regarde un petit peu comment ça va se passer. La peur nous a protégés de certains dangers et nous protège toujours de certains dangers. Alors, on peut considérer que des fois, elle nous protège trop de certains dangers parce que la peur, en fait, on l'amplifie dans notre tête. Mais avant, on doit dire quand même que la peur vient beaucoup... Avant l'amplification, elle vient beaucoup en fait de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait. En fait, c'est les zones d'inconnu qui nous font peur. Et moi, il me reste beaucoup d'inconnus à découvrir. Par exemple, j'ai gravi quelques cols, notamment sur le Gravelman Auvergne, le col de la Croix Saint-Robert, qui est pour moi le col qui était le plus, je pense, oui, c'est sûr, c'est le plus élevé en altitude, avec la descente la plus raide. Alors, la plus raide et la plus longue. On va dire la plus longue et la plus raide sur l'ensemble cumulé. J'ai fait des descentes plus longue en kilométrage, mais moins raide. J'ai fait des descentes plus raides, mais plus courtes. Mais celle-ci, en fait, elle avait, peut-être 8 kilomètres de descente, peut-être 10, je sais pas, ou 9, on va dire. En tout cas, elle m'a paru interminable avec des virages, avec de la vitesse qui monte assez vite, etc. Le froid, le vent, je me caillais, j'avais du mal à appuyer sur les freins au bout d'un moment. Et donc, là, elle me pose problème. Mais, en fait, les cols rencontrés pendant mon périple, pour aller voir Mano avaient des pentes qui étaient moins abruptes, qui m'ont semblé moins abruptes. Il faut peut-être aussi le voir de cette manière-là. Et à côté de ça, j'ai pas fait des cols des Alpes, qui sont des longs cols, qui ont des grandes descentes, des virages en épingle à cheveux, et qui sont plus compliqués. Et puis même en Auvergne, sans aller aussi loin comme les Alpes, il y a dans le Cantal, le Puy-Marie par exemple et tout, les descentes, comment c'est fait, sont encore différentes. Donc, en fait, par rapport aux descentes, mais c'est valable pour plein de terrains et tout, il me reste plein de zones d'inconnus. Et forcément, tant que je n'ai pas roulé sur des cols plus raides, plus élevés, plus, avec plus de descentes, etc., eh ben, il y a cette appréhension qui va venir, cette peur de me dire, est-ce que je suis capable de descendre? Comment je vais faire pour descendre? Est-ce que je vais bien avoir mes freins? Est-ce que mes freins vont pas trop chauffer et devenir inefficaces, etc.? Toutes ces peurs, c'est logique qu'elles remontent parce que je les connais pas, en fait. Je les ai jamais faites. Donc, c'est logique. C'est totalement logique. Alors, comment lutter contre ces peurs? Eh ben, c'est d'augmenter petit à petit la zone de connu. C'est-à-dire que, forcément, c'est faire plus de col, rouler sur plus de terrain, augmenter l'expérience, les heures de selle, aller sur des endroits qu'on connaît pas, etc. Et c'est vrai que si on roule toujours sur la même piste cyclable, on est dans une zone de sécurité, on est dans une zone de confort, de confiance, etc. où finalement, on devient tellement confiant qu'on se prépare pas à affronter des obstacles potentiels qui pourraient nous amener à la chute. Donc, le fait de varier les terrains, d'aller voir de nouveaux trucs, de nouveaux endroits, etc. amène aussi une variété qui permet de se confronter à d'autres choses, mais qui permet aussi d'apprendre d'autres choses, et donc de dire bah j'augmente mes compétences, et en augmentant mes compétences, je me sens plus confiant, et donc je diminue aussi ma peur, et notamment cette peur de chuter. Et puis attention quand même à ne pas amplifier la peur, parce que ça c'est quand même un élément, je l'ai dit, la peur c'est une émotion d'anticipation, en fait, c'est-à-dire que ça va plus vite que nos pensées d'ailleurs, il faut savoir que les émotions vont plus vite que la pensée. Notre corps réagit avec une émotion beaucoup plus rapidement, en fait, que le temps que le cerveau se mette à vraiment penser. C'est-à-dire que c'est vraiment un réflexe, on pourrait dire, hein, sur l'émotion. C'est d'une anticipation, et cette peur-là, en fait, c'est dire je vais tomber dans le ravin, je vais pas arriver à freiner, je vais rater le virage, je vais me faire mal, je vais me blesser, je vais tomber sur la tête, dans la chute, en fait, il n'y a pas que la chute. En fait, on anticipe tout ce qui peut se passer mal. Je vais pas arriver à freiner, donc je vais tomber dans le trou, dans le grand ravin. Alors là, on revient sur les notions de vertige, de vide qu'il peut y avoir dans certains cas. Je vais rater le virage, donc je vais me trouver tout droit, je vais me prendre le mur, je vais me faire mal, je vais me blesser, on pourrait avoir dire tiens si je suis en groupe je vais être ridicule si je me casse la gueule et puis ils vont se moquer de moi, ou alors je vais me blesser et je vais vraiment me faire très très mal et tout, et puis je pourrais pas aller travailler demain, je pourrais pas m'occuper de mes enfants, je vais culpabiliser, j'aurai pas assez d'argent ensuite pour faire le truc, je vais casser mon vélo, je pourrais plus rouler. Enfin, on a plein en fait de pensées qui viennent comme ça, qui découlent de ça, et donc en fait il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on anticipe et est-ce que c'est vraiment censé d'anticiper tout ça. Alors bien entendu, ce n'est pas si facile que ça de dire ah oui, c'est pas très sensé. Dire c'est comme ma fille qui a peur des chiens, j'ai beau lui dire non mais ce chien là, il est en lui-même, il va pas te croquer, en plus il est en laisse, en plus il est loin, il va jamais venir te voir. C'est quand même dans sa tête, en fait, toutes les pensées qu'elle a. Puis l'autre jour, elle a commencé à en discuter un peu, elle me dit oui, mais j'ai peur qu'il vienne me mordre, j'ai peur qu'il se détaille, j'ai peur qu'il fasse ça, etc. Donc c'est-à-dire que par rapport à la peur, elle a anticipé tout un tas de pensées de ce qui pourrait se passer jusqu'au final où le chien, forcément, il pourrait venir le mordre. Donc elle a peur, donc elle panique, donc faut la porter, etc. Et en fait, c'est ça, en fait, le problème de la peur de la chute. C'est de se dire, bah, finalement, qu'est-ce qui va découler de la peur de est-ce que je chute? Et même de avant la chute, en fait. C'est-à-dire que, je me dis, je vais pas freiner, je vais pas faire ci, puis si je tombe, il va se passer ça, etc. Donc, en fait, il faut se poser la question de notre perception du danger et notre perception, finalement, de ces peurs, de nos craintes, de nos angoisses, arriver à identifier au fond de nous-mêmes, en fait, ce qui déclenche la crainte et l'angoisse. Ce qui, pour certains, ça peut être la peur de la mort. Pour d'autres, ça peut être la peur d'être handicapé parce qu'on a fait une mauvaise chute, la peur de la blessure, la peur d'être opéré, la peur de... Je dis la culpabilité de pas pouvoir s'occuper de ses enfants, de pas pouvoir aller travailler, la culpabilité de dépenser de l'argent, mais qui peut être des fois aussi, parce que je l'ai vu en ski, c'est de dire ah mais si je tombe, les gens autour de moi ils vont se moquer de moi. Enfin voilà, il peut y avoir des trucs, différentes peurs qui agissent pas sur le même niveau, hein, parce que on peut penser que la peur d'être ridicule est une peur qui semble ridicule en apparence, sauf qu'en fait ça joue sur l'ego, ça joue sur l'estime de soi, ça joue sur la confiance, ça joue sur beaucoup de choses, et en fait ça fait partie des peurs les plus importantes qu'on peut savoir, hein, parce que c'est aussi relié à la peur de parler en public, la peur de faire du théâtre, la peur de se déguiser, la peur de danser en public quand il y a des gens, la peur de chanter devant d'autres personnes, etc. Des peurs que je connais très bien, par exemple, depuis une expérience malheureuse au karaoké, vous pouvez être sûr que vous ne me voyez jamais chanter en public, parce que j'ai imprimé que c'était la moquerie et toutes ces peurs-là, etc. Et donc, petit à petit, on relativise. Hein. Moi, je vais chanter avec ma fille le mercredi matin, on va à l'école de musique. Ça me fait chanter, ça me fait relativiser beaucoup de choses, etc. Parce que j'affronte un petit peu aussi ces choses-là. Et je pense, en fait, que c'est vraiment important là-dessus, c'est d'apprendre à relativiser. Relativiser, déjà, bah, je le dis, hein, c'est que en faisant des choses, petit à petit, on se rend compte que, finalement, certaines choses qui nous faisaient peur, eh ben, on est capable de les maîtriser, on est capable d'intégrer petit à petit des compétences pour les maîtriser. Et puis qu'il y a certaines peurs avant de devoir, avant de faire les choses, etc. Eh ben, on peut les relativiser. Donc là, on peut avoir des pensées, c'est-à-dire qu'au lieu de voir 100% négatif, on peut en fait doser, en fait, en se disant, en posant des questions, en se disant non, mais est-ce que vraiment ce risque-là, il existe? Est-ce que ce risque-là, il existe? Et puis, quand bien même, si je tombais devant quelqu'un, est-ce que franchement, il se moquerait? Ou plutôt, est-ce qu'il aurait pas peur que je me sois fait mal? Hein, et donc, relativiser. Et puis, finalement, relativiser aussi la culpabilité, etc. Là, j'avais fait, je vous mettrai un lien dans les deux épisodes, j'ai fait sur mon site, trouver une pépite, c'est-à-dire une mini-formation. Qui doit faire comme 1h30, 2h, hein, sur la confiance en soi, avec des techniques pour relativiser les craintes, en se basant sur les TCC, en faisant des tableaux, en disant bah, qu'est-ce qui me fait peur, etc. Et notamment, moi j'utilisais beaucoup en course à pied, mais j'utilisais aussi par rapport au gravelman, hein, par rapport au vélo, en me disant, bah oui, mais finalement, qu'est-ce que dans le vélo me fait peur, dans ma pratique du vélo, qu'est-ce qui peut me faire peur, et comment je peux relativiser. Et faire peur, hein, y a la peur des fois aussi de dire, bah tiens, j'ai pas le matériel pour faire ça, j'ai pas le bon équipement, moi si j'ai un vélo Décathlon, que je vais dans un club de vélo et qu'ils ont tous des vélos à 5000 balles, ils vont se foutre de ma gueule. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses, hein, qui peuvent rentrer là-dedans. On dépasse largement le cadre de la chute, mais ça reste des peurs en fait. Peut-être qu'on peut penser que ces peurs n'ont aucun sens. C'est un peu comme ma peur de crever, hein, me dire le temps que je me suis posé comme question pour en dire sur les crevaisons, etc. Me dire s'il faut ça, le nombre de nœuds au cerveau que je me suis fait sur est-ce qu'il fallait que je mette est-ce que je reste en chambre ou est-ce que je passe en tubeless, etc. Et finalement j'ai une crevaison, hein, en comment je vous ai dit 2000 kilomètres, ouais, un truc comme ça. Donc j'ai une crevaison et je sais que je vais la réparer. 2153 kilomètres. Maintenant que j'ai réparé, je sais que je sais la réparer, je sais que je suis capable de réparer ma crevaison. Si d'ailleurs je passais en tubeless, j'aurais cette crainte de dire, si jamais j'ai un gros problème sur le tubeless, est-ce que je suis capable de réparer parce que je suis en tubeless, parce qu'il y a le liquide, parce que si, parce que ça, etc. Donc ça mettrait en place de nouvelles peurs. Alors on n'est pas dans la peur de la chute, mais on est dans de nouvelles peurs, de nouvelles craintes. Donc vous voyez en fait le schéma de la peur, c'est un peu, il vient se niger dans plein d'endroits différents. Mais j'ai eu la peur effectivement sur mes pédales automatiques, j'avais la peur de crever, j'ai eu la peur aussi de me dire, mais si je casse telle pièce du vélo, par exemple si je casse ma chaîne. Bon, dans mon petit outillage sous la selle du vélo, il y a un maillon de rechange en fait, hein, pour changer un maillon. Et je me suis dit bon, je sais pas si ça va vraiment servir un jour. Et puis il y a pas longtemps, quand je prenais le train, il y avait quelqu'un qui a débarqué en VTT, qui avait un magnifique VTT, mais qui avait la chaîne en fait autour du cou parce qu'il avait cassé sa chaîne. Et là, j'ai repensé, j'ai dit bah oui, mais j'ai même dit vous voulez un maillon de rechange. Alors la taille correspondait pas, parce qu'il est vraiment un très très gros vélo. Je sais pas ce que c'était ce vélo, vraiment un truc énorme avec des gros gros maillons. Et ça passait pas. Mais sur le coup, je me suis dit si moi ce truc là m'arrive, au moins je peux réparer. Ça m'a envoyé une peur de me rester coincé avec une chaîne autour du cou. Bref, vous voyez un petit peu où ça va se nicher, toutes ces questions. Mais en fait, cette peur de je casse ma chaîne, finalement, comment je l'ai un petit peu calmée? Je l'ai calmée en achetant un truc qui coûte 2 € et que je mets dans ma sacoche de vélo, et en me disant voilà, si jamais ça m'arrive, je peux réparer. J'ai les moyens de réparer ce truc-là. Si je crève, je sais que j'ai une chambre à air et que je peux la remplacer, parce que je sais que je l'ai déjà fait, parce que je sais comment faire, parce que je sais que j'y arriverai, parce que mon pneu, j'ai déjà réussi à le sortir et tout, et que j'arriverai à le remettre, et que depuis que je l'ai réparé, même si ma chambre avec la rustine, j'avais très mal réparé, j'arrivais quand même à rouler, même si une petite elle se rouvrait de temps en temps, etc. Mais même en faisant ça, et même si je devais réparer, mettre une rustine, je sais le faire. Donc je sais que cette peur là je resterai pas coincé pendant des heures et des heures à attendre un jour que le loup vienne me manger au fond de la forêt, si je crevais au fond d'une forêt. Ouais, les peurs vont se nicher à des endroits des fois assez bizarres. Et c'est pour ça que, en conclusion de cet épisode, je vous dirais que, et Isabelle notamment, le truc c'est de questionner la peur en fait. De quoi j'ai vraiment peur, de la questionner, qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que c'est vraiment la peur de chuter? Vers quoi elle me renvoie? Comment je peux la relativiser? Ensuite, c'est de pratiquer le plus possible, parce que vraiment, c'est la pratique, hein, les heures de selle, les terrains, les expériences, etc., qui permettent, hein, de gagner finalement en aptitude et en confiance, d'augmenter petit à petit la dose de connu en faisant des nouvelles choses qu'on n'a pas fait aussi, c'est ça, de le faire régulièrement pour bien mémoriser, parce que C'est vrai que faire une fois dans l'année un truc, à chaque fois qu'on va le faire, finalement, c'est de l'inconnu. Alors que le faire deux, trois fois dans la semaine, et ben finalement, ça devient du très connu, du très classique. Et donc, on a intégré tout un tas de nouveaux réflexes. Et donc, c'est ça aussi qui nous permet de gagner en aptitude et en confiance. Et donc, qu'en faisant tout ça, en fait, en faisant tout ce schéma-là, et ben finalement, on arrive à gagner en aptitude, en confiance en soi. Relativiser, en fait, le risque de chute qu'il peut y avoir. C'est-à-dire ne... Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, en fait. Hein. Mais je pense d'ailleurs que... Parce que j'ai eu le cas là, de quelqu'un qui a expliqué sa chute en vélo qu'il a fait là, l'autre jour. C'est des fois, les chutes, on peut ne pas penser qu'elles vont arriver à ces endroits-là. Quoi. Sur des endroits où ça paraît totalement anodin, où il n'y a pas de danger, où il n'y a rien, etc. Lui, par exemple, c'est une chute sur une balade en vélo, alors que la veille, il avait fait une grande course en roulant à toute vitesse. Il chute pas sur la course en roulant à toute vitesse, en prenant les virages à toute vitesse et en engageant vraiment dans les descentes, etc. Mais il se prend une gamelle sur une balade, sur une piste cyclable et il se fait mal. Bon, même la peur de chuter, finalement, n'aurait pas anticipé ce genre de chute. Et pourtant, elle arrive. Donc ça veut dire que même si des fois on peut avoir peur de certaines chutes, on peut pas prévoir ce qui va vraiment se passer. Faut pas prévoir ce qui va vraiment se passer. Donc ce qu'on peut faire en fait, c'est travailler sur nos aptitudes, nos confiances et notre capacité, finalement, notre équilibre à récupérer le vélo si ça commence à glisser d'un côté, à faire confiance à notre intuition si là on sent qu'il faut ralentir, à se dire peut-être que ce truc-là, attention, je connais pas trop ce truc-là ou je connais pas trop la réaction que ça peut avoir et je me méfie un petit peu, etc. Et c'est comme ça aussi qu'on gagne en aptitude, qu'on se fait confiance aussi petit à petit et qu'en gagnant confiance en soi, eh ben on va relativiser une bonne partie des peurs qu'on peut avoir, même si moi je suis persuadé que de toute façon on aura toujours les peurs, que des gens sans peur ça n'arrive pas, qu'il y a des âges où on sait que la peur est plus faible et est beaucoup plus faible, et notamment on le sait que dans la période des jeunes adultes ils font des trucs qui nous semblent insensés, mais aussi c'est parce qu'ils ont une relation à la peur qui est différente. En vieillissant, on a une relation à la peur qui est différente aussi parce que elle vient aussi de notre environnement. Quand j'ai dit la culpabilité de dire si je chute, si je tombe, si je me fais mal et que je reste coincé pendant trois semaines dans un lit, comment je vais m'occuper de mes enfants, comment je vais travailler, c'est une peur qui vient de la culpabilité qu'on peut ressentir et qui est comme ça en fait, hein. C'est-à-dire que des jeunes adultes l'auront pas, des enfants l'auront pas. Moi je me suis cassé le coude quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent, en faisant des trucs, j'ai jamais pensé qu'est-ce qui pourrait se passer, je pourrais pas faire mes devoirs le lendemain si je me casse le coude, j'ai jamais pensé à ça, alors que maintenant je pourrais me dire effectivement, mais si je me prends ces gadins là, etc., comment je vais faire pour travailler, comment je vais faire pour m'occuper de ma fille, comment je vais faire ça. C'est l'âge aussi qui fait qu'on a ces nouvelles peurs, que c'est certaines formes de peurs qui arrivent, qui se créent, etc., et qu'il faut apprendre aussi avec, vivre avec. Voilà, écoutez, c'est ma conclusion sur cet épisode-là, sur les peurs. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment important, que peut-être il y a des gens qui n'osent pas trop le dire, hein, qui n'osent pas trop l'avouer, qui peuvent avoir ces peurs, et pourtant, tout le monde les a, et je le répète, hein, nous sommes des êtres... Si nous avons vécu autant d'années, autant de millénaires, si l'espèce humaine s'est développée comme ça, c'est aussi parce que l'espèce humaine a appris à être pessimiste et que ce pessimisme en fait nous a protégés, et que la peur, hein, finalement, on peut dire qu'elle est pénible par moment, mais c'est une émotion qui nous protège et qui était faite en fait pour nous protéger, nous protéger de certains dangers. Alors on peut estimer que peut-être que maintenant elle nous protège de certains dangers dont on n'aurait pas besoin d'être protégé, qu'elle nous surprotège ou qu'en tout cas on surestime certains dangers, parce que maintenant on va se protéger de dangers qui sont finalement pas physiques, mais qui sont, quand je parlais de moquerie, quand je parlais de on va penser, qu'est-ce qu'on va penser de moi, c'est j'ai pas les bons vêtements, j'ai pas le bon vélo pour faire ça, etc. C'est franchement des peurs qui n'ont pas lieu d'être, mais qu'on a connues, hein. Moi j'avais peur de m'inscrire dans un club de course à pied à une époque, donc vous voyez comme quoi, parce que je pensais que j'étais trop lent, trop vieux pour participer dans des clubs comme ça, comme quoi les peurs vont se nicher partout. Donc je trouve que c'est un sujet qui est vraiment super important, que moi j'ai vécu sur la peur de la chute, la peur de casser des pièces, la peur de tout un tas de choses comme ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, car je trouve que ces questions nous permettent à tous de progresser vraiment. Vous voyez, moi ça m'a permis aussi de revoir mon parcours, de revoir ce que je fais, de réanalyser un petit peu mes comportements, de revoir un petit peu ce que je comment je fonctionne, de réviser mes classiques aussi de préparation mentale au niveau de la peur. Donc je remercie, merci beaucoup Isabelle déjà pour cette question. Merci à tous ceux, j'en ai eu d'autres des questions, mais merci à tous ceux qui me posent des questions, qui échangent. Merci à vous tous de soutenir ce podcast. Vous savez qu'une manière de le soutenir notamment, c'est d'aller mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, de mettre un petit commentaire. Vous pouvez mettre un commentaire sur Apple Podcast, vous pouvez mettre un commentaire sur Spotify. Sur chaque épisode du commentaire, vous pouvez mettre un commentaire sur Spotify. Donc on peut échanger dans la discussion. Et puis bien sûr, on se retrouve sur les réseaux sociaux @BertrandSoulier. Et puis vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode et sur mon blog bertrandsoulier.com. Je vous souhaite à tous une belle fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.